Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Retour de l'instant M, c'est une semaine qui redémarre. Tous ensemble, il est 9h40 sur France Inter.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
On est lundi et on s'est dit que le lundi était un bon jour pour parler du journal du dimanche. D'abord parce que cet hebdomadaire a lancé une newsletter quotidienne intitulée Le journal du de demain. Or, le lendemain du dimanche, eh bien, c'est le lundi. Regardons, oui, à quoi est voué à l'avenir ce titre fait de coups, d'exclus et de scoops. Regardons aussi le journal de la veille, celui paru hier et ceux des dimanches précédents, car le JDD a aussi la particularité d'irriter, d'agacer, d'attraper, d'interpeller Sarkozy, Tapie, Benalla, autant de cas sur lesquels les traitements du JDD a suscité la critique. Quant à l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle, eh bien le JDD ne cesse de démolir l'enquête de Mediapart qui de son côté ne cesse de démolir les arguments du JDD. Alors, le journal du dimanche, bilan et perspective.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Hervé Gattegnaud.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la rédaction du journal du dimanche, 155 000 exemplaires par semaine, c'est ça? Si on parle de papier en kiosque, un chiffre qui baisse, comme tout le papier d'ailleurs. Chaque dimanche, un pavé dans la mare. Là, il est tombé pile, d'après ce que j'ai compris, entre France Télévisions et Laurent Ruquier. Le torchon brûle, avez-vous écrit, et l'animateur pourrait partir sur M6. En tout cas, il en discute avec Nicolas Tavernet, le patron d'M6. Double démenti, triple démenti. Dans la foulée de Laurent Ruquier, de France Télévisions et de Nicolas Taverneau.
Ben ça veut dire que peut-être que notre article les a aidés à trouver un accord ou un point d'entente. Il aurait été surprenant que dans les heures qui suivent la publication d'un tel article, tout le monde le confirme. Nous, en tout cas, on maintient qu'il y a des discussions assez tendues entre tout cela. Mais notre article ne disait pas qu'il n'arriverait pas à trouver d'accord.
Bien, bien, bien. Une newsletter quotidienne, je l'ai dit. Le JDD serait donc devenu un quotidien. Vous qui aviez tant combattu l'idée que le JDD soit le quotidien du septième jour.
Oui, précisément, moi je combats l'idée, déjà c'était mon cas lorsque j'étais lecteur de JDD, a fortiori depuis que je le dirige, le JDD ne peut pas se permettre d'être un quotidien qui ne paraîtrait qu'un seul jour par semaine. Mmh. Ce serait mortel dans le paysage d'hyper-concurrence qui est celui des médias d'information aujourd'hui, et donc c'est la raison pour laquelle il faut que notre marque média, comme on dit aujourd'hui, qui est très puissante le week-end, puisse se développer pendant la semaine avec la même façon.
C'est-à-dire, si vous n'êtes pas le quotidien du septième jour, vous êtes quoi? Vous êtes un hebdomadaire, vous êtes un magazine. Vous ressemblez à un journal quotidien parce que vous êtes imprimé sur papier journal et non sur papier glacé, mais vous êtes un hebdomadaire.
Nous sommes, la définition juridique de notre journal, c'est un quotidien parce qu'en France, un quotidien, ce n'est pas un journal qui paraît tous les jours, c'est un journal qui n'est en vente que pendant 24 heures. Donc de ce point de vue-là, nous sommes un quotidien du dimanche. Mais quand je combats l'idée que nous ne serions qu'un quotidien du dimanche, c'est parce que je pense qu'il est indispensable pour nous que nous soyons présents toute la semaine. Nous avons, depuis longtemps déjà, un site d'information comme tous les grands journaux, qui est très performant et qui est en croissance. Et nous avons maintenant cette lettre d'information quotidienne, qui est un petit journal qui paraît tous les soirs
et alors
à 18h30 pour ceux qui s'y abonnent.
Intitulé le journal de demain.
Parce que nous avons voulu respecter l'esprit dans lequel nous faisons le JDD, en tout cas depuis que j'y suis, c'est-à-dire, je crois que je vous l'avais expliqué aussi à ce micro, le JDD... Puisqu'il paraît le dimanche, il a le choix entre être le dernier journal de la semaine ou le premier journal de la semaine qui s'ouvre. Mmh. Et il est évident, quand on le dit comme ça, que c'est la deuxième solution qui est la meilleure, c'est la plus attractive pour les lecteurs, c'est celle qui nous permet de nous rendre indispensables, si on peut avoir cette prétention. Et donc, le journal de demain, notre newsletter quotidienne, elle est faite exactement dans le même esprit. À 18h30 tous les soirs, on vous annonce, à vous lecteurs, ce qui va faire l'actualité du lendemain, au moment où les autres médias sont en train de parler de l'actualité qui vient de s'écouler.
Les coulisses du JDD, pourquoi avoir ajouté cette rubrique à votre newsletter?
Parce que vous êtes bien placé pour le savoir, Sonia. Ouais. Les gens s'intéressent à la façon dont les médias sont faits. C'est un petit élément de coulisses. Ça permet de donner un peu de distance, de mettre un peu de contre-champ dans ce que nous faisons. C'est pas du tout pour nous glorifier de quoi que ce soit, mais c'est pour raconter l'envers du décor des journalistes, raconter comment ils travaillent, raconter peut-être aussi parfois comment ils n'arrivent pas tout à fait à leur fin. On verra dans les prochaines semaines, peut-être.
On verra qu'est-ce que vous allez faire de cette rubrique, si ça va rester très anecdotique ou si vous allez être capable de lucidité et si c'est vrai et d'honnêteté, parce que c'est une
rubrique de coulisses et on n'a pas dit que c'était une rubrique mea culpa.
S'il y a
des mea culpa à faire, oui, ne doutez pas que nous les ferons. Pour l'instant, nous, ce qu'on essaie de faire, surtout plus modestement, c'est de montrer à nos lecteurs comment on travaille.
Mmh. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, invité de C'est à vous le 4 septembre dernier sur France 5, on l'écoute.
Si vous avez suivi l'actualité de l'été, si vous avez lu les mêmes articles que moi, vous devriez avoir une conclusion qui irait peut-être dans le même sens. Nous verrons.
Je veux parler du dimanche et de l'affaire de ce qu'on appelle le financement libyen.
Je ne veux pas faire de déclaration en porte-pièce parce que ce serait vécu comme une déclaration poétique, une attaque. Je veux pas. Je vous dis juste une chose, Marine Le Pen. Tous ceux qui ont fait ça, pour des raisons politiques, pour des raisons médiatiques, ou pour des raisons crapuleuses, auront à en rendre des comptes.
Alors, je rappelle que l'ancien chef de l'État est triplement mis en examen, que le financement libyen de la campagne, le supposé ou peut-être financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy daterait de 2016, qu'il aurait reçu, si ça s'avère exact, de l'argent du colonel Kadhafi. Alors, ça a été l'un des feuilletons de l'été. Le JDD publie de nouveaux éléments, selon vous, accréditant la thèse d'une vaste machination. C'est-à-dire que selon la thèse que vous défendez, vous, et que vous vous employez à prouver, il n'y aurait jamais eu de financement libyen, jamais eu d'argent distribué à l'équipe de Nicolas Sarkozy. Tout ça a été manigancé pour faire tomber Nicolas Sarkozy.
Non, moi je ne défends pas de thèse. Mm-hmm. Je fais une enquête, en l'occurrence plutôt une contre-enquête, puisqu'il me semble que l'opinion était assez largement acquise, à travers principalement les articles de Mediapart, au fait que Nicolas Sarkozy avait été corrompu. Ce qui provoquait d'ailleurs une sorte de malaise, parce que comment imaginer que, comme le prétend Mediapart, des preuves matérielles existeraient de cette corruption, et que finalement, à part une mise en examen qui date de 2018, finalement il ne se soit plus passé grand-chose. Un président de la République dont il serait acquis qu'il aurait été corrompu par un dictateur devrait être en prison et pourrait être jugé s'il en existait des preuves. Encore une fois, moi ce que je dis, c'est que ces preuves n'existent pas, que pour certaines, elles ont été fabriquées, que l'accusation s'appuie essentiellement sur des témoignages qui sont, pour leur quasi-totalité, contradictoires, invérifiables, et lorsqu'ils sont vérifiables, ils s'avèrent inexacts, mensongers. Et donc, ce que je dis, ce que j'essaie de démontrer, c'est que cette accusation, telle qu'elle est formulée, ne tient pas. Je ne suis pas l'avocat de Nicolas Sarkozy.
Le 14 juillet, Edouard Plenel, fondateur de Monde Mediapart, prend la plume et qualifie votre travail, Hervé Gattegno, de fiction.
Oui, il l'a fait sur son blog personnel, il ne l'a même pas fait comme éditorial de Mediapart. Honnêtement, c'est leur affaire. Contrairement à ce que vous avez dit, Sonia. Contrairement à ce que vous avez dit, Sonia, moi je ne réponds pas à Mediapart. Mediapart, de temps en temps, essaie de me répondre. Moi, j'ai multiplié les articles depuis le 14 juillet, non pas pour répliquer à l'enquête de Mediapart, mais pour critiquer l'enquête de la justice. L'enquête de la justice
qui a commencé il y a six ans, un article qui s'intitule « Prime en espèces, l'expertise citée par Mediapart n'en est pas une ». Donc si vous vous répondez, Mediapart démolit votre enquête et vous démolissez l'enquête de Mediapart. Non. Là où vous annoncez cet été que l'affaire est en train de s'effondrer, manifestement Mediapart depuis est très en forme parce que toutes les semaines il republie de nouveaux papiers.
Non, il republie d'anciens papiers, vous voulez dire.
Et vous aussi, vous êtes aussi très en forme sur le dossier.
C'est un très bon exemple ce week-end. Mediapart, à grands coups de trompette, a annoncé vendredi qu'une expertise, un rapport d'expertise révélait que 250 000 euros d'argent liquide avait circulé dans la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, en quelques lignes dans le journal, j'explique que c'est totalement inexact, donc mensonger. Il n'y a pas de rapport d'expertise, il y a une note de 2 pages d'une assistante spécialisée du pôle financier qui s'est contentée d'une opération d'arithmétique. Elle a regardé quel pourcentage représentaient les primes que certains membres de la campagne de Sarkozy ont admis avoir reçu, et elle a appliqué ce pourcentage à l'ensemble des personnels de la campagne, y compris ceux qui ont juré n'avoir reçu aucune prime.
Alors, qu'est-ce qui se
donc,
passe,
c'est une simple opération d'arithmétique, ce n'est aucunement une révélation. Et surtout, pardon, juste un ultime détail, Mediapart présente cela comme un rapport d'expertise, précisément pour lui donner l'apparence de la solidité d'une preuve. Mais c'est totalement mensonger, ce n'est pas inexact, c'est mensonger, ce n'est pas un rapport d'expertise, il ne démontre pas ce que Mediapart prétend qu'il démontre. Donc, moi, mon problème n'est pas Mediapart. Mon problème est qu'il y a une accusation gravissime contre un très haut personnage.
Très grave,
c'était
en
le
effet.
Plus haut personnage de notre République. Et moi, ce que je dis, c'est que dans cette affaire, les citoyens méritent d'avoir le fin mot. C'est dans cet esprit-là que je travaille pour le journal du dimanche. Les citoyens doivent savoir si, oui ou non, l'ancien président de la République a été corrompu par un dictateur, ce qui ferait de cette affaire le plus grand scandale de l'histoire de notre République, au moins depuis le scandale de Panama.
Ou si c'est une machination, j'ai bien
auquel
compris.
Cas, ce serait le plus grand scandale médiatique, alors, politique et judiciaire depuis l'affaire Dreyfus.
Hervé
ce qui serait proprement hallucinant.
Parce que où sont les citoyens, cette affaire est très grave et en fait, ce qu'il en ressort là, c'est une espèce de haine, d'acharnement de Mediapart contre le JDD, du JDD contre Mediapart. C'est assez rare en réalité.
Non, vous
dans
ne pouvez
la presse
pas dire ça.
Française, Hervé Gattegnaud, que deux journaux, deux titres de presse respectables et l'un et l'autre se répondent de telle manière, se mettent en scène leur quasi-combat
leur antagonisme. Manifestement en désaccord, nous n'avons pas la même vision de cette affaire. C'est le débat public. Vous dites la haine, n'exagérons rien. Franchement, je préfère dire antagonisme et en effet une façon différente de pratiquer le journalisme, surtout sur ces matières. Moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, Mediapart est essentiellement un média d'accusation. Il porte des accusations, parfois des dénonciations, et ils n'entendent pas, ils refusent d'entendre les arguments qui ne vont pas dans le sens de leur thèse. Parfois, ils vont jusqu'à dénigrer, jusqu'à calomnier ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Je l'ai vécu. Je suis allé au tribunal pour poursuivre Mediapart à raison d'un article que j'ai trouvé absolument scandaleux et pour lequel la justice les a condamnés.
Ils font appel.
Rappelez-vous, oui, bien sûr.
Ils font appel de ce jugement.
Ils font appel. Ils seront donc certainement condamnés une deuxième fois. Et donc, regardez l'affaire François de Rugy. Regardez l'affaire du secrétaire général de l'Élysée. Aujourd'hui, Mediapart multiplie les accusations et puis ensuite, quand les accusations s'évanouissent, quand elles disparaissent, quand la justice tranche en leur défaveur, Mediapart ne dit rien, ou pire, parfois ils disent « nous avions raison quand même ». Donc, en dehors du théorème selon lequel Mediapart aurait forcément raison, y a-t-il encore une place pour le débat public sur les affaires judiciaires et politiques? Moi, je crois que oui, et donc je m'efforce d'y contribuer.
Il y a, sauf que ça se transforme en duel entre vous.
Mais ça se transforme
les
en duel parce que les autres ne viennent
pas
y participer. Croyez-moi,
et pourquoi
Sonia,
les autres n'y participent pas, alors
je ne sais pas, moi je ne dirige pas d'autres journaux. Ouais. Je regrette que les autres journaux ne prennent pas leur part de ce débat public dans une affaire dont, je l'ai dit, je considère qu'elle est la plus grave probablement des 20 ou des 30 dernières années dans notre pays.
Alors on poursuit et on continue de feuilleter justement le JDD et son traitement de l'actualité. On se souvient tous évidemment de l'affaire Benalla. On se souvient aussi de cette grande une que vous aviez consacrée à l'affaire. Portrait d'Alexandre Benalla en une, les bras croisés. Face à l'objectif qui était titré « Ce que j'ai fait pour Macron ». Une qui a déchaîné la critique sur les réseaux sociaux de la part d'autres journalistes, trouvant que cela ressemblait beaucoup à de la com, finalement, à une opération de communication.
Bon, écoutez, je ne crois pas qu'une interview d'un personnage qui est au cœur d'une affaire soit forcément de la com, comme vous dites. Mais en tout cas, quand quelqu'un s'exprime pour défendre son point de vue, pour raconter ce qu'il a fait, on peut soit appeler ça toujours de la communication, soit appeler ça toujours du journalisme. Il est rare que les gens s'auto-dénigrent dans les interviews
c'était
qu'ils donnent.
C'était suivi d'un portrait signé par vous-même.
Non, c'était pas suivi. C'était en réalité le papier lui-même était un format. Portrait interview, c'est-à-dire ce n'était pas une interview question-réponse, c'était un récit alimenté de nombreuses citations d'Alexandre Benalla, dans lequel il racontait en effet ce qu'était son parcours personnel, chose qu'à l'époque on ne savait pas. Il y avait eu les révélations du Monde sur les poursuites dont il est l'objet. Il avait ensuite donné une interview au journal Le Monde, dans laquelle il s'expliquait sur les charges que la justice lui oppose, et il était allé sur TF1. Et nous, ce que nous avons fait avec lui, c'est lui faire raconter sa vie, raconter son parcours et aussi quelques détails de ce qu'il n'avait pas dit sur la façon dont il fonctionnait lorsqu'il était à la présidence
sur
de la République.
Sur Bernard Tapie, le jugement a été rendu le 9 juillet dernier. On va revenir justement sur ce jugement. Vous aviez publié une interview de Bernard Tapie au mois de mars. Interview aussi qui a pas mal fait couler d'encre. Je reprends vos questions, Hervé Gattegnaud, car c'était vous-même en personne qui l'aviez interviewé. Vous pensez-vous, Bernard Tapie, victime d'un acharnement? Pensez-vous que, autre question, tout ce qui vous a été reproché était toujours injuste? Autre question, devant la justice, il vous est quand même arrivé de gagner? Non. Autre question, la prison, c'est votre pire souvenir? Autre question, on vous sent combatif pour ce procès, avez-vous des atouts dans votre manche? On sent une interview tout entière dans le même sens.
Non, c'est pas du tout exact. Si vous infligiez à vos lecteurs la lecture intégrale de cette interview, ils remarqueraient que 4 questions sur 5 que vous venez de citer étaient en réalité des relances face à quelqu'un qui justement avait une vision totalement univoque de la justice, comme si l'ensemble des magistrats étaient acharnés à sa perte. Et donc, par exemple, je lui disais, mais enfin, vous pouvez pas dire ça, puisque précisément il vous est arrivé de gagner devant la justice. Et donc, quand je lui dis, donc vous pensez que vous êtes victime d'un complot, c'est pour réagir à la façon très univoque avec laquelle il présente le dossier. Ce que vous ne dites pas, c'est que avec cette interview, j'avais également publié un article dans lequel je disais, et je crois que nous n'étions pas très nombreux à l'avant-veille du procès, en quelque sorte, à dire que le dossier ne tenait pas, que l'accusation ne tenait pas. Vous savez, je connais...
Et le jugement vous donne raison.
Me donne raison, en tout cas il lui donne raison à lui et à tous ceux qui étaient poursuivis. Mais le fait est que la justice, celle qui juge, a effectivement considéré à la fin que l'instruction telle qu'elle avait été menée ne tenait pas et qu'il n'y avait donc pas de charge suffisante. Je connais Bernard Tapie depuis 25 ans, vous savez, j'ai débuté à Marseille, je l'ai connu au temps de sa splendeur. Nous avons eu pendant très longtemps des relations très orageuses, très difficiles. Il m'a poursuivi en justice, j'ai publié de nombreux articles très critiques, c'est le moins qu'on puisse dire contre lui. Il me semble, et c'est dans le même esprit que ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'affaire libyenne et de Mediapart, il me semble qu'on n'est pas obligé de choisir toujours un camp, on n'est pas obligé d'être pendant 25 ans pro-Tapie ou anti-Tapie. Moi, je ne suis ni pro-Tapie, ni anti-Tapie, ni pro-Sarkozy, ni anti-Sarkozy, ni pro-Mediapart, ni anti-Mediapart. J'essaie de regarder les faits tels qu'ils sont. Dans cette affaire, il me semblait que les faits donnaient raison à Bernard Tapie. C'est ce que la justice à juger.
Qu'est-ce qui s'est passé, Hervé Gattegnaud, avec ce papier non publié par votre journal concernant un proche de Manuel Valls? On était au moment des municipales, c'était un candidat à Évry, il s'appelait Francis Choual, l'un de vos journalistes, publié une enquête dans laquelle on montrait que ce monsieur vit en couple et que ce couple est bénéficiaire d'un logement social alors qu'il est par ailleurs propriétaire d'un appartement à Paris. Vous n'avez pas souhaité le publier. Le journaliste a ensuite claqué la porte. Marianne a parlé de censure de votre part et d'un texto reçu par Manuel Valls vous demandant de protéger un de ses proches.
Alors, votre question, c'était qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je vais vous dire tout simplement, il ne s'est à peu près rien passé, ou en tout cas, rien d'autre que la vie normale d'une rédaction. Il n'y avait pas les informations suffisantes dans cet article pour qu'il puisse être publié alors qu'il mettait en cause des personnes. C'était, vous ne l'avez pas précisé, c'était, nous étions à la veille d'une élection.
Absolument, laquelle, je l'ai dit.
Je ne vous ai pas bien entendu. Nous étions à la veille d'un scrutin dans lequel la personne qui était susceptible d'être mise en cause dans cet article était candidat, de sorte qu'avec les lois électorales, il n'aurait pas eu la possibilité d'y répondre sans violer la loi électorale. Et donc, c'était porter une accusation qui n'était pas suffisamment étayée. Et donc, j'ai pris la décision de ne pas publier cet article. Je continue de penser que j'ai bien fait. Je l'ai expliqué à la rédaction qui, je crois, l'a parfaitement compris. Et contrairement à ce que vous dites, le départ de ce journaliste qui n'était pas un journaliste salarié, qui était un très bon journaliste, son départ de la rédaction
n'a rien à voir.
Non, je ne dis pas que ça n'a rien à voir. Il me l'a présenté lui-même comme un ensemble de choses. Il m'a présenté lui-même un ensemble de causes motivant son départ. Ce n'était pas la cause principale de son départ. J'ai d'ailleurs proposé à ce journaliste, lorsqu'il le souhaiterait, de republier des enquêtes dans notre journal. Et il n'est pas opposé au principe. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit.
Merci beaucoup, Hervé Gattegnaud, le très remuant patron du JDD. Vous devriez venir plus souvent faire le point sur toute...
Invitez-moi plus souvent, je reviendrai.
C'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup d'être venu dans l'Instant M.